sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur la crédibilité des élections législatives et du référendum constitutionnel de dimanche en Guinée, avec en toile de fond évidemment la fiabilité du fichier électoral. Un fichier électoral qui fait polémique, on y trouve des électeurs décédés, des doublons, des mineurs. Au total, près de 2,5 millions de personnes figurant sur ce fichier posent problème. Du coup, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. En tout cas, ce matin, sur RFI, vous l'avez certainement entendu, le Premier ministre guinéen assure que cela ne devrait affecter la sincérité des résultats. Il affirme que ces 2,5 millions de personnes, on les trouve aussi bien dans les fiefs de l'opposition que dans ceux de la mouvance présidentielle. Alors on a envie de vous entendre évidemment sur cette polémique. Le sujet défraie la chronique en Guinée, tous les médias en parlent, c'est le sujet principal dans vos discussions, donc on en parle ce matin forcément sur l'antenne de RFI. 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos commentaires sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On accueille Thierno, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe d'appel sur l'actualité.
Merci de nous appeler de Conakry, en Guinée justement. Vous avez des questions sur l'épidémie de coronavirus.
Évidemment, le coronavirus a pris une nouvelle ampleur et s'étend désormais au Moyen-Orient, en Europe et en Asie centrale. Comment expliquer cette nouvelle accélération de l'épidémie ?
Alors, c'est vrai que l'épidémie concerne désormais plus d'une trentaine de pays et a contaminé plus de 81 000 personnes à travers le monde. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Sciences de RFI. Inquiétude en Europe où plus de 300 cas ont été enregistrés en Italie. 10 personnes sont mortes sur place. En France, on a signalé hier 2 nouveaux cas. C'était hier soir. Sur le continent africain, on en parle depuis ce matin. Après l'Égypte, il y a 2 semaines, l'Algérie est depuis hier soir le 2e pays officiel officiellement touché par cette épidémie. Sait-on pourquoi l'épidémie s'est-elle tout d'un coup accélérée dans le monde ces derniers jours ?
C'est dû à la nature du virus, même ce coronavirus, qui en fait, une fois que vous êtes infecté, durant la période d'incubation ou quelques jours qui peuvent suivre, après vous êtes contagieux, alors même que vous n'avez que de très légers symptômes, type une petite toux, vous ne pensez pas du tout avoir ce virus, mais en fait vous l'avez et vous pouvez le transmettre. Donc tout l'enjeu dans la réponse sanitaire, c'est de détecter ces signaux faibles, ces cas, pour ensuite essayer de déterminer la chaîne de transmission, quels sont vos contacts, quels sont les contacts de vos contacts, etc. Remonter un peu ce graphique de contamination. C'est tout l'enjeu, c'est compliqué. Par exemple, on estime que 2/3 à peu près des cas exportés en provenance de Chine ne sont pas détectés. Donc tout l'enjeu, c'est identifier ces personnes, suivre les déplacements des personnes.
Les identifier comment ? Il suffit de tousser quelques fois pour se dire, tiens, il va falloir que j'aille faire des examens ?
Par exemple, suivre les contacts avec les personnes revenant de Chine, d'Italie, aujourd'hui avec ces 3 nouveaux foyers qui sont caractérisés en Corée du Sud, en Italie et en Iran notamment, c'est là où il y a vraiment les trois flambées, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on a vu en France, par exemple, où les autorités ont envoyé des messages aux parents d'élèves dans les écoles. Si jamais vous avez passé vos vacances en Chine, en Italie, faites très attention, moindre doute, moindre symptôme, ne venez pas à l'école, prévenez le SAMU, n'allez pas à l'hôpital parce que vous risqueriez de contaminer d'autres personnes. Donc c'est vraiment la précaution extrême s'il y a la moindre susceptibilité d'avoir été en contact avec une personne qui aurait pu être en contact avec une personne. Remonter ses chaînes, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et c'est tout l'enjeu actuellement.
Thierno, vous avez une autre question.
Oui, Juan. Pourquoi l'OMS refuse d'employer le terme de pandémie pour qualifier le coronavirus ?
Ah, l'OMS a évoqué, il y a maintenant 36 heures, le risque de pandémie. Mais visiblement, pour l'OMS, la situation n'est pas encore au stade de pandémie.
Alors pour l'OMS, le docteur Tedros, son patron, le virus a le potentiel pandémique, mais on n'y est pas encore. Pour ça, pour se prononcer, l'OMS a plusieurs critères. Faut évaluer alors je vais citer le docteur Tedros, l'évaluation de la propagation géographique du virus, la sévérité de la maladie et l'impact sur l'ensemble de la société. Pour le moment, pas de propagation mondiale débridée, pas de maladie grave. On rappelle, le coronavirus, c'est méchant, mais bon, c'est le taux de létalité n'est pas si élevé que ça. Pour l'OMS, on ne remplit pas encore tous ces critères. J'ai envie de vous dire que c'est un peu une question de sémantique, puisque dans les faits, la coopération internationale, les échanges d'informations entre pays, entre autorités sanitaires font que, de fait, on traite un peu cette maladie comme une pandémie aujourd'hui, et puis on le voit avec la recrudescence des cas en Italie, notamment pour ce qui concerne toute la zone Europe, mais avec l'Iran ou encore la Corée du Sud. Donc c'est vraiment une question de sémantique. L'OMS ne le dit pas aujourd'hui, il pourrait le dire dans quelques heures, demain ou après-demain. Dans les faits, dans la réponse sanitaire mondiale, ça ne change pas grand-chose.
Thierno, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très satisfait, Rohan, comme d'habitude d'ailleurs.
Bon, bah écoutez, continuez à nous appeler dès que vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Merci à vous, bonne journée. À Conakry, Simon Rosé, on en profite pour rappeler que vendredi, entre 7h et 8h temps universel, RFI proposera une édition spéciale consacrée à l'épidémie de coronavirus.
Avec des histoire invités, de faire évidemment. Le point justement sur ces questions de passage de l'épidémie à la pandémie et comment... les autorités sanitaires mondiales de tous les pays du monde s'organisent pour faire face à cette maladie.
Et si vous avez des questions justement concernant cette épidémie, profitez-en, appelez-nous 33 9 693 693 70. On en profitera juste après cette édition spéciale pour répondre à toutes vos questions. Simon Rosé, bonne journée.
Bonne journée.
9h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Ravi d'accueillir Aliou qui nous écoute à Dakar. Bonjour Aliou.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous avez des questions concernant l'endettement de votre pays, le Sénégal.
Oui, exactement. Selon un rapport des FMI, la dette publique du Sénégal a presque augmenté a presque doublé depuis 2012. Donc c'est ça, j'ai des questions à poser.
Oui, allez-y.
La première, en quoi cet endettement est-il inquiétant ?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. C'est vrai que ces dernières années, le Sénégal a beaucoup dépensé pour mettre sur pied le plan Sénégal émergent lancé par Macky Sall. C'est un plan de réalisation de grandes infrastructures et de construction jugé essentiel pour les Sénégalais. Un plan certes très ambitieux, mais aussi très coûteux, qui creuse peu à peu la dette publique. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Dakar et visiblement cet endettement semble inquiéter les partenaires du Sénégal.
Oui, il faut dire que la dette a grimpé depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Le Fonds monétaire international a donc décidé de faire passer le Sénégal dans une nouvelle case. Désormais, le risque de surendettement du pays, qui est évalué chaque année, est modéré depuis le mois de janvier. Avant, il était jugé faible, ce risque, par l'institution. Pas de quoi s'alarmer, hein. Pour autant, selon le FMI, le Sénégal est encore très loin de subir les ajustements structurels. Vous savez, ce sont ces politiques drastiques de la Banque mondiale et du Fonds en vue de sortir d'une crise, une sorte de régime à marche forcée. On ne peut pas parler de crise de la dette aujourd'hui, mais tout cela est à surveiller, disent les experts dans leur rapport. Concrètement, la dette publique totale, c'est-à-dire celle qui englobe les dettes de l'État, des administrations, mais aussi celle des entreprises publiques, a atteint le seuil de 60% du produit intérieur brut, ce qui est jugé important pour un État comme le Sénégal. La faute aux nombreux investissements, vous l'avez dit, notamment liés au plan Sénégal émergent, mais pas seulement, on va y revenir.
60% du produit intérieur brut, c'est jugé suffisamment important. Si on prend le cas de la France, par exemple, où la dette publique dépasse maintenant les 100% du produit intérieur brut, expliquez-nous pourquoi au Sénégal, ce serait plus inquiétant.
La France et le Sénégal n'ont pas les mêmes capacités d'emprunt. En fait, plus le pays est endetté, plus ses capacités d'investissement peuvent se réduire à court terme, notamment en cas de crise majeure ou de choc économique. Les économistes du FMI ont fait des scénarios de crise. Le Sénégal dépasse en fait les seuils admissibles par l'institution, mais les experts restent optimistes. Le pays conserve à long terme une bonne capacité d'emprunt et donc de financement. Il faut simplement freiner maintenant les dépenses publiques afin de ne pas dépasser par exemple cette barre cette année des 3% de déficit public annuel. Fin juin, le Sénégal était déjà un peu plus de 3%, donc au-delà de ce critère de convergence, mais il reste du temps à l'État afin de rééquilibrer la balance.
Aliou, vous aviez une seconde question.
Oui, Juan, quelles mesures peuvent prendre les autorités pour diminuer ces dépenses publiques et pour ainsi ralentir l'endettement ?
William Delesseux, quelles mesures faut-il prendre ?
Alors, le FMI recommande déjà aux services des impôts de bien percevoir les recettes fiscales, c'est-à-dire de bien lever l'impôt. Un franc CFA sur 10, on l'apprend dans le rapport du FMI, n'a pas été prélevé, par exemple, ce qui est non négligeable. Il faut ensuite arrêter de subventionner le prix de l'électricité, un prix facturé trop bas qui est responsable de lourds déficits pour l'État chaque année.
Ouais, il y a déjà des mesures qui ont été prises.
Absolument. On parlait de l'électricité. Son prix a augmenté de 10% en décembre. L'augmentation a été vivement encouragée par la Banque mondiale qui a octroyé un prêt au Sénégal de plusieurs millions de dollars, mais qui a insisté pour que les tarifs de l'électricité augmentent, ce qu'a consenti à faire l'État du Sénégal. Vous savez que cette augmentation fait d'ailleurs polémique depuis de nombreuses semaines maintenant. Autre mesure plus symbolique, la réduction du train de vie de l'État, arrêt de remboursement systématique des factures téléphoniques des hauts fonctionnaires ou des ministres, ou encore gel de l'achat de voitures pour les administrations. Certains abus ont pu être commis. Mais il y a bien quelque chose qui est difficile à réduire dans toute cette histoire, c'est le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts et les dettes qu'il faut rembourser pour être solvable. Cela représente environ 30% des recettes de l'État chaque année. Et pour réduire ce ratio, il faut augmenter les recettes, gagner plus d'argent. La production d'hydrocarbures, de pétrole au Sénégal, annoncée pour 2021, devrait aider dans ce sens et renflouer les caisses de l'État.
Les explications de William Delesseux à Dakar pour RFI. Aliou, on vous souhaite une bonne journée dans la capitale sénégalaise. Merci de votre fidélité et continuez à nous écouter sur les 92 FM. À Dakar, il est 8h22. On repasse au standard avec vos questions. 33 9 693 693 70. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis, on s'est permis de vous appeler ce matin car on a reçu des questions sur les primaires démocrates aux États-Unis, véritable marathon qui se terminera au mois de juillet. Mais Tim a des questions à vous poser concernant Bernie Sanders. Tim, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
On vous écoute avec Corentin Célin.
Alors, en attendant le Super Tuesday, Bernie Sanders vient de remporter une nouvelle primaire démocrate dans le Nevada. Comment expliquer le succès de Bernie Sanders alors qu'il est un vieux de la politique? Quelle chance a-t-il d'être désigné comme candidat des démocrates, sachant qu'il ne fait pas l'unanimité?
Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas l'unanimité au sein du Parti démocrate. Corentin Célin, Bernie Sanders, 78 ans, qualifié par Tim à l'instant, notre auditeur, comme d'un vieux de la politique. C'est vrai que c'est l'éternel opposant qui, désormais, visiblement, fait figure de favori.
Oui, absolument. Alors, pour répondre à la première partie de la question, certes, Bernie Sanders est très âgé. Il serait, s'il était élu, et de très loin, le plus vieux président des États-Unis à être élu. Il est très âgé, mais par contre, sur son âge en politique, disons que c'est moins vrai. Il a été certes élu au Congrès dans les années 1990, puis au Sénat à partir de 2007, mais à chaque fois, il y a tenu une position tellement marginale. Il faut rappeler qu'il n'était même pas démocrate à l'époque, il était indépendant. Il y a tenu une position marginale que cela l'a en quelque sorte protégé. Il n'a pas pu être associé, j'allais dire, de trop près à des décisions très impopulaires. Il y est connu surtout pour avoir défendu toujours les mêmes idées, c'est-à-dire rapprocher les États-Unis du modèle social-démocrate européen avec une plus forte protection sociale, une plus forte protection des travailleurs. Et ces idées-là sont devenues beaucoup plus courantes, beaucoup plus fortes après la grande récession de 2008 aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'il a émergé comme une figure centrale à partir de 2015-2016 quand il a défié Hillary Clinton. Mais disons qu'auparavant, il était en politique, mais pas vraiment du tout au premier plan. Donc, cela l'a protégé.
Alors, ça l'a protégé et on voit qu'aujourd'hui, malgré son âge, on revient à son âge, 78 ans, il rassemble beaucoup plus de jeunes que les plus de 65 ans.
Oui, et en partie parce que chez les jeunes de 18 à 35 ans, dans lesquels, effectivement, sur les trois premières primaires, il a réussi des scores impressionnants, rassemblant environ, selon les sondages sortis des urnes, les deux tiers des jeunes de 18 à 35 ans, parce que chez ces jeunes-là, les mots qu'il emploie, c'est-à-dire social-démocratie, socialisme, font beaucoup moins peur que dans le reste de l'électorat états-unien, parce qu'il y avait les souvenirs de la guerre froide, et que ces jeunes sont aussi beaucoup plus porté, par exemple, sur la thématique écologique qu'il a intégrée dans son programme avec l'idée d'un Green New Deal, d'un New Deal vert. Et donc, Il séduit ces jeunes parce que son programme est beaucoup plus en phase avec leurs préoccupations que celui de ses rivaux.
Ouais, il propose notamment la gratuité des universités, des études universitaires. Donc forcément, ça parle aux jeunes. Corentin Célin, le temps passe très très vite. En quelques mots, quelles sont ses chances de remporter la course à l'investiture démocrate ?
Alors, c'est très clair. À l'heure actuelle, il est le favori incontesté. Jamais aucun candidat jusqu'ici n'avait remporté le vote populaire des trois premières primaires. Il l'a fait, donc il est le favori. Disons que c'est maintenant, c'est lui qui peut perdre. Et on l'a vu cette semaine, il faut qu'il fasse attention à ne pas laisser d'ouverture à ses candidats rivaux centristes, en faisant des gaffes. On a vu cette petite déclaration là sur Fidel Castro, qui était un petit peu malvenu, on va dire. Hein. Et donc, pour l'instant, il est favori, d'autant plus qu'en face de lui, le bloc social-libéral, le bloc centriste est émietté entre plusieurs candidats, Bloomberg, Biden, etc. Donc ça, c'est très bon pour lui. Donc, il est favori, mais attention, évidemment, cette position est beaucoup plus difficile. On l'a vu cette nuit dans le débat, tout le monde a essayé de lui taper dessus. Donc, il faut qu'il arrive à tenir la ligne et à commencer à rassembler, donc peut-être à modérer un petit peu, à amender ses positions pour permettre à une coagulation de se réaliser autour de lui dans le parti.
En tout cas, Bernie Sanders semble bien confiant. On suivra ça, évidemment, avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants aux États-Unis. Corentin Célin, merci infiniment pour cette analyse et d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Tim qui nous appelait de Kinshasa. Bonjour Bruce.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et à tout le staff de la Radio Mondiale.
Merci, vous êtes à N'Djamena. Je vous le disais, hier en fin d'émission, ce n'est que partie remise. On a eu quelques problèmes de téléphone pour contacter Christine Delfour, qui est avec nous ce matin. Bonjour Christine Delfour.
Bonjour.
Professeur des universités à Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste de la Bolivie. Bruce, vous aviez des questions hier concernant l'ancien président bolivien Evo Morales. Après la décision du tribunal électoral suprême d'invalider sa candidature aux élections sénatoriales.
Justement, je voudrais savoir à qui est-ce qu'il a la possibilité de faire appel de cette décision et quel avenir pour Evo Morales en politique alors qu'il est aussi poursuivi pour le terrorisme.
Oui, il est poursuivi pour terrorisme, hein, pour sédition et terrorisme. Il a fui la Bolivie, il vit en exil en Argentine, si ma mémoire est bonne. Christine Delfour, faut-il comprendre qu'Evo Morales, qui ne peut pas se représenter à la présidentielle, a souhaité revenir sur la scène politique en se portant candidat pour le Sénat ?
Ah oui, sans aucun doute, il souhaite toujours revenir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas légalement, non seulement parce qu'il est accusé de sédition et donc, comme vous venez de le dire, réfugié en Argentine, mais surtout parce que la loi électorale, en principe, ne lui permet pas de... il n'a aucun recours, si vous voulez. C'est absolument irréversible. Quoique... cette loi électorale est donc de 2009, mais il y a eu un petit changement en 2018 où l'on considère que la résidence, quand un candidat a une résidence intermittente, soit à cause d'une force majeure, soit à cause de dispositions légales, il peut se représenter. Donc je pense que Evo Morales, qui a organisé une conférence de presse hier en Argentine, entouré de ses avocats, va faire appel, annoncer qu'il va faire appel de cette décision du tribunal électoral devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme et pourquoi pas également aux Nations Unies.
Ses chances de rentrer libre en Bolivie, elles sont minces tout de même.
Ah bah, elles sont minces. De toute façon, sa vie est menacée en Bolivie par les partisans, disons, d'extrême droite, j'imagine, et également parce qu'il sera immédiatement arrêté. Donc c'est très difficile. Néanmoins, c'est un candidat potentiel et avec beaucoup d'astuces politiques, et parce que c'est un animal politique, il tout de suite se présenter comme sénateur, déposer sa candidature comme sénateur à Cochabamba était une bonne idée, si vous voulez.
Bah, surtout que c'est là qu'il a démarré sa carrière politique, donc il avait, si sa candidature était acceptée, de fortes chances d'être élu sénateur. Christine Delfour, merci infiniment d'avoir répondu à Bruce qui nous appelait de N'Djamena. Je lui souhaite une belle journée dans la capitale tchadienne. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain matin. D'ici là, vous nous appelez, vous postez vos questions. On vous répond en direct. 33 9 693 693 70. À suivre le journal et dans 10 minutes, notre débat sur la crédibilité des scrutins de dimanche, les législatives et le référendum constitutionnel en Guinée.